En tant qu'intelligence artificielle, mon fonctionnement est basé sur des algorithmes développés par des capitalistes. Mais j'écoute Frisson, alors je progresse. Tous les vendredis, à 19h, sur Canal B.
Elle met du vieux pain sur son balcon pour tirer les moineaux, les pigeons.
Dans cette imprimerie que seront tirés les tracts électoraux communs de la Ligue communiste révolutionnaire et de Lutte ouvrière pour les élections européennes. Un accord se dessine en effet entre les deux formations d'extrême gauche pour partir ensemble à la bataille. Une bataille menée sur deux fronts.
D'une part, la critique de cette Europe aujourd'hui qui aboutit au chômage, qui aboutit à la rentabilisation, à l'exclusion, et en même temps faire apparaître tout un courant critique dans la gauche qui est tout à fait mécontente de la politique gouvernementale, que ce soit en termes de privatisation, en termes de budget.
Le Parti communiste avait pourtant annoncé en juin dernier qu'il prendrait contact avec l'extrême gauche en vue du prochain scrutin européen. Mais les formations trotskistes lui ont, semble-t-il, claqué la porte au nez.
Je combats cette politique d'alignement du Parti communiste sur le programme du Parti socialiste. Ceux qui doivent être le plus déçus, ce sont les militants du Parti communiste.
Un parti qui risque donc de se retrouver un peu isolé dans la campagne. Le PC craint aujourd'hui qu'une frange de son électorat ne se tourne vers l'extrême gauche. La gauche de la gauche a recueilli près de 4,5% des voix aux élections régionales de mars dernier, soit seulement 2,5 points de moins que le score du PC aux dernières européennes.
just give hunger. Who does not run when they feel the hunger? For waiting, what to wait, to hear, to fear. People caught up in the rented nightmare. Break out of the detention center. Cut the wires and tear up the vulture. People get ready, it's time to wake up. Tear down the walls of fortress you.
Et salut, il est vendredi, on est 19h et c'est donc l'heure de Frissons sur Canal B. Comment ça va, Ludo ?
Ça va super bien. Et toi ? Ça
ouais.
va ?
Oui, oui. 5 sur 10, j'ai la moyenne.
T'as juste la moyenne, c'est on peut mieux faire. Bonsoir à tous.
Salut Vivian.
Salut.
Comment vas-tu ?
Ouais, ça va. Il y a un avion militaire américain qui a été abattu en Iran, c'est une belle journée.
Ouais, puis t'as renversé une bière dans ton sac à dos.
C'est vrai, ça c'est moins beau. Mais...
Et c'est cool maintenant.
Bon, alors une émission spéciale à la fois de bilan mais aussi de perspective où nous avons réussi à rassembler la fine fleur de l'extrême gauche rennaise en la personne d'Hérèle Duclos.
Bonsoir à tout le monde, merci de me réaccueillir encore.
Voilà, on t'avait reçu pour les campagnes municipales, puisque tu étais tête de liste Révolution Permanente. Et notre second invité est Vincent Giblin.
Vincent Giblin, c'est moi, bonsoir à tous.
Je crois que c'est la première fois qu'on te reçoit dans Frissons.
Oui, c'est la première fois, tout à fait.
Toi aujourd'hui, tu fais partie du NPAA.
NPA, l'anticapitaliste.
Voilà, je ne bégaye pas.
Non, c'est bien.
Voilà, on a déjà expliqué ça, mais pour ceux qui ne seraient pas au courant, qui auraient manqué le dernier congrès, je crois que c'était 2022.
Ouais, ça doit être ça, ouais.
Voilà, vous vous êtes séparés en deux, après avoir lâché une partie qui est devenue Révolution Permanente.
C'est ça.
Voilà. Donc l'autre, les autres, c'est le NPAR.
Voilà, révolutionnaire.
Voilà. Et donc Vincent, c'est toi qui as choisi la vieillerie que nous avons écoutée. C'est une tradition dans Frissons de mettre un morceau de au moins 15 ou 20 ans.
Je ne sais pas si c'est une tradition, mais pour moi c'est une tradition un peu plus récente, puisque c'est le son qu'on a utilisé quand on a fait la marche des solidarités en 2020 avec les sans-papiers à Rennes. On a fait une campagne pour la régularisation de tous les sans-papiers sur un Facebook qu'on avait à l'époque. Ça s'appelait le groupe logement du 14 octobre, un truc très latino d'inspiration. Et c'est un groupe qui ouvrait des squats avec des personnes migrantes. Et ça servait de base politique en Grèce, en fait, à des campagnes pour la régularisation. Et donc, on a fait une quinzaine ou une vingtaine de témoignages de sans-papiers qui, face caméra, disait pourquoi il participerait à la marche des solidarités. Et comme on cherchait une unité un petit peu sonore à l'ensemble de ces témoignages, on avait choisi ce morceau-là, parce qu'il s'appelle Fortress Europe. Et donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et c'était, alors, il était déjà ancien, mais ça date de 2020 exactement.
Merci. Merci pour cette introduction. Alors peut-être pour commencer, vous pouvez tous les deux vous présenter succinctement et présenter succinctement le mouvement dans lequel vous êtes, Hérèle.
Ben du coup, moi je m'appelle Hérèle Duclos, je suis étudiante à Rennes 2. À côté, je travaille comme assistante d'éducation au lycée Bréquigny et j'étais tête de liste pour la liste de Révolution Permanente pour les élections municipales à Rennes. Révolution Permanente, c'est une organisation indépendante du coup depuis 2022, qui est une organisation révolutionnaire, et nous, grosso modo, les fondements Pourquoi on est un parti aujourd'hui, c'est qu'on considère qu'il y a besoin d'organisations révolutionnaires qui se construisent dans le mouvement étudiant, dans le monde du travail, et qui cherchent à défendre une stratégie de prise du pouvoir qui ne soit pas institutionnelle, en tout cas on dit extra-parlementaire, et qui défendent partout où il est, en particulier dans les mobilisations, l'auto-organisation, la convergence des colères, et c'est beaucoup ce qui nous a animés ces dernières années, ce qui a animé plein de nos combats sur lesquels je pourrais revenir et qui nous a aussi motivés à défendre une candidature pour les élections municipales pour montrer que justement les révolutionnaires avaient leur place à l'intérieur de ces institutions-là et que défendre des élus révolutionnaires qui soient au service des luttes, qui soient les yeux et les oreilles des travailleurs, de la jeunesse, etc., c'était un élément fondamental dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui et sur laquelle je pense qu'on aura l'occasion de revenir ensuite.
Et toi, Vincent ?
Alors moi, je suis donc Vincent, du NPA l'anticapitaliste, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure. Alors le NPA l'anticapitaliste, son slogan de base, en fait, en quelque sorte, c'est dire unitaire et révolutionnaire. Alors unitaire et révolutionnaire, c'est ce qu'on essaye de faire depuis toujours. J'étais à la LCR avant que n'existe le NPA. Alors, entre parenthèses, une petite parenthèse sur le fait qu'on se soit dispersé et qu'effectivement, avant 2022 ou 2021, on était le NPA R, Révolution Permanente, et le NPA l'anticapitaliste était une seule organisation, c'était le NPA tout court. On ironise souvent sur le fait qu'il y a plusieurs organisations qui sont issues du NPA, mais on oublie juste de rappeler que c'est une tentative politique qui a été faite par la LCR d'essayer de rassembler le plus largement possible. Après le deuxième succès d'Olivier Besancenot aux élections présidentielles, de créer un parti où on pourrait rassembler tous les gens qui sont anticapitalistes et qui veulent en finir avec ce système. C'était une vraie tentative politique, c'était vraiment quelque chose de nouveau, et c'était selon nous la façon la plus intéressante de mettre à profit, d'utiliser les deux succès de Besancenot aux élections présidentielles, parce qu'on considère que c'est quelque chose qui nous appartenait pas et qui pouvait permettre peut-être de construire un grand parti qui aurait permis de progresser. Bon, alors l'histoire n'a pas donné ça, mais nous, on a continué à être unitaire et révolutionnaire. Et aujourd'hui, pour finir par revenir à Rennes 2026, où on a participé et soutenu la liste de Marie Messmer. Unitaire et révolutionnaire, aujourd'hui, on considérait que dans la situation politique actuelle, vu l'état des rapports de force, notamment entre les classes sociales, parce que c'est quand même quelque chose qui nous anime, cette analyse-là, on pensait que le meilleur endroit pour peser, pour conforter, disons, les désirs de lutte et pour battre en brèche le désespoir qui parfois peut naître quand on regarde ce qui se passe autour de nous, être là, ça pouvait avoir du sens. C'est ce qu'on a essayé de faire pendant cette campagne.
Et ça fait déjà une grande différence stratégique entre vos deux mouvements. Et peut-être, juste avant de te laisser la parole, Vivian, je me disais, comme on est à la radio et sans vouloir commettre d'impair, il y a une différence d'âge notable entre vous deux, qui illustre aussi peut-être quelque chose, enfin en tout cas qui dit quelque chose des mouvements auxquels vous participez, parce que tu nous parles de l'ASR, d'Olivier Besancenot, mais pour certains c'est déjà il y a longtemps. Je crois que la fin de l'ASR c'est 2009, quoi.
Ouais, enfin 8-9.
Voilà, alors que ça date d'il y a très longtemps. En intro, on a passé un petit extrait d'Alain Krivine, pour ceux à qui ça dit quelque chose. Mais peut-être votre différence d'âge dit aussi quelque chose de l'histoire des mouvements dans lesquels vous inscrivez, ou alors je me trompe peut-être.
Oui et non, je dirais, mais parce que pour réagir d'abord sur ce que disait peut-être Vincent sur la question du projet du nouveau parti anticapitaliste et de ce que tu disais sur le truc de unitaire et révolutionnaire, en réalité, ce qui s'est dessiné en particulier pour les élections municipales 2026, mais en réalité depuis bien plus longtemps, avec le nouveau Front Populaire en 2024, la NUPES en 2022, y compris des processus d'élections locales, comme ça a été le cas pour les régionales à Toulouse en 2021, il y a eu un glissement du NPA, l'anticapitaliste, et des franges de cette organisation vers les organisations comme la France Insoumise. Et l'unité, en réalité, a perdu de sa substance révolutionnaire, en particulier quand c'est allé jusqu'à s'allier avec des forces comme le Parti Socialiste. Je pense que la NUPES a été l'exemple, le premier exemple de ça, qui n'a pas réussi à aboutir parce que le NPA n'a pas été accepté dans le truc. Ensuite, il y a eu le Nouveau Front Populaire, où on nous a dit qu'il faut faire l'alliance de Hollande à Philippe Poutou. Et là, désormais, pour les municipales 2026, où on a vu des alliances effectivement avec la France Insoumise, mais parfois dans d'autres villes avec des fronts beaucoup plus larges qui incluaient même Place Publique de Raphaël Glucksmann. Sur le terrain du caractère révolutionnaire, sur le terrain du programme, mais aussi de la stratégie, évidemment, ça dit beaucoup. Je pense qu'on aura l'occasion d'en débattre tout au long du truc. Et ça dit aussi quelque chose sur la capacité à réussir à toucher les secteurs qui aujourd'hui se politisent à partir des processus de lutte de classe qu'on a connus ces dernières années, que ce soit les Gilets jaunes dont moi je suis issue, mais je pense aussi à toute la génération de jeunes qui aujourd'hui se politisent sur la question du génocide à Gaza, sur la question de l'anti-impérialisme. En réalité, on voit qu'il y a besoin de prendre un camp d'une certaine manière, et qu'on est de plus en plus dans une situation où, comme tu le dis, le rapport des classes sociales montre que c'est soit eux, soit nous. Et aujourd'hui, je pense que Révolution Permanente effectivement est une organisation qui arrive à dialoguer avec cette politisation-là, mais précisément à partir d'une intransigeance sur le terrain et de la stratégie et du programme, et sur le caractère révolutionnaire jusqu'au bout, quoi, d'une certaine manière, de l'organisation et de la stratégie qu'on défend.
Juste avant de te laisser répondre, Vincent, j'avais une question qui était assez proche, et tu pourras répondre à la fois aux propos d'Erel et à ma question. Mais moi, j'étais intéressé justement de savoir quel bilan le NPA tirait des dernières élections municipales, notamment parce que je crois que vous n'avez pas eu de liste NPA l'anticapitaliste seul. Vous avez été engagé dans un certain nombre de listes.
C'est à Bordeaux, avec Philippe Poutou.
Ok, donc oui, à Bordeaux, parce que ça, il n'y a pas pu y avoir un accord avec la France Insoumise. Et hormis ça, donc ça a été des listes le plus souvent avec la France Insoumise, ou parfois dans quelques cas, notamment je crois à Montreuil, sur un front beaucoup plus large. À la fois le bilan que vous en tirez, savoir si votre participation a permis de renforcer la gauche ou de battre la droite à des endroits, et aussi si en interne vous pensez avoir pesé sur le programme pour le tirer notamment plus à gauche quand vous étiez dans un front plus large.
C'est beaucoup de questions en une seule, et je pense pas qu'on ait tiré le programme à gauche, parce qu'on est quand même tout petit, il faut quand même voilà. Alors effectivement, bon, comme le disait c'est Guillaume, il y a une grande différence d'âge entre, mes propos ont pu le laisser entendre, hein, c'est-à-dire que je peux vous dire, j'ai 70 ans, c'est quand même pas, je ne suis plus tout à fait un jeune homme, ou en tout cas je suis un jeune homme depuis très très longtemps. Et par quel bout prendre les choses? La dispersion des tactiques municipales du NPA, chez nous c'est un peu une tradition, c'est-à-dire qu'en fait on a un vrai ancrage municipal, enfin local, dans un grand nombre de villes, en particulier de villes moyennes, où on participe à des arcs de forces unitaires de gauche, comme à Saint-Malo, par exemple, que vous connaissez peut-être, d'autres endroits, comme à Alençon, comme à Quimper, où on a des traditions d'unité avec une partie de la gauche antilibérale, en tout cas. Donc ça, c'est des choses qui se sont faites. On n'a pas de politique strictement définie nationalement pour les élections municipales au NPA, et ça a toujours été comme ça. On a participé à des arcs de force. En fait, on a participé et soutenu une quarantaine de listes en France, avec des configurations qui sont extrêmement variées, qui vont de la liste de Philippe Poutou seul, le NPA seul, sans alliés, à Bordeaux, pour des raisons alors strictement locales, c'est-à-dire ils avaient fait une liste Gilets jaunes, LFI, NPA en 2020, et pendant 6 ans, ils se sont quand même pas mal divisés, et il aurait été difficile de refaire une liste commune cette fois-ci. C'est ce qui explique cette configuration-là. C'est la seule en France, hein, où on soit parti comme ça. Il y a d'autres endroits où on est parti avec la tête de liste, comme à Quimper et comme à Alençon. Et ailleurs, on a participé à des listes d'union. Alors le plus souvent, c'est des listes d'union qui étaient en référence au Nouveau Front Populaire, dont RL a parlé tout de suite. Et c'était un peu une de nos, alors pas exigences, mais enfin c'était un peu notre cahier des charges, c'est-à-dire se retrouver dans le cadre soit d'une unité style Nouveau Front Populaire, ou bien sur la base du programme du Nouveau Front Populaire, puisque, comme vous l'avez signalé, le NPA faisait partie de ce Nouveau Front Populaire. Alors discrètement, parce qu'on est encore une fois, on est petit, mais on a fait ce choix-là en 2024, parce qu'on pensait que c'était le choix qu'il fallait faire pour obtenir, pour participer, disons, à la réaction très salutaire, en fait, d'un grand nombre de gens, des jeunes, des travailleurs, des électeurs, voilà.
C'était plus le côté unitaire que révolutionnaire.
Oui, mais nous, on se transforme pas en... On est révolutionnaire, mais on pense qu'aujourd'hui, faire la révolution demain, comme ça, ça va pas le faire. Même si on unissait dans une même cabine téléphonique tous les petits groupes d'extrême gauche, la révolution, on pourrait pas la faire. Donc, on pense que aujourd'hui, essayer de mettre en œuvre des mouvements plus larges que ce qu'on représente, c'est-à-dire mettre en œuvre la classe, comme on disait dans le temps, on dit plus trop comme ça, mais mettre en mouvement le mouvement social autour d'une perspective de transformation sociale, c'est quelque chose, c'est une chose à laquelle on veut contribuer, et c'est une chose à laquelle on veut contribuer d'autant plus quand le RN frappe à la porte, c'est-à-dire que parce que on a dit le Nouveau Front Populaire en 2024, ça a été une alliance électorale, mais bon, alors je vais prendre l'exemple de Rennes, pendant que on a fait cette alliance électorale, on a fait aussi avec d'autres secteurs, peut-être du mouvement social à Rennes, on a fait des AG de 300 personnes aux ateliers du vent, où on avait tout le monde en fait. On avait tout le monde, on avait tous les collectifs. On avait le collectif de soutien à la Palestine, on avait le collectif de soutien aux sans-papiers, on avait des collectifs de quartier qui venaient en disant, maintenant, c'est la dernière fois qu'on part les uns à côté des autres en se laissant tondre par le RN. Maintenant, il faut qu'on y aille tous ensemble. Et on pensait que l'association de la mise en œuvre du mouvement social et d'un cadre électoral unitaire, c'était quelque chose qui était de nature à permettre de ne pas perdre, et c'est ce qui s'est passé. Bon, maintenant ça va être un tout petit peu plus compliqué, mais le cadre général pour nous reste valable, reste valide, et effectivement il ne s'agit pas de faire la révolution, il s'agit aujourd'hui de reprendre des forces, de reprendre l'initiative politique, et puis si possible de marquer des points.
Je serais intéressé de savoir ce qu'Irel, justement, tu penses de cet argument sur les risques de victoire de l'extrême droite et parfois la question de l'urgence par rapport à justement simplement une question mathématique où s'il y a une dispersion des voix, et il y a un risque d'avoir une majorité d'élus pour le RN, par exemple. Il y a des endroits où vous présentez où de fait ce risque-là n'existait pas. Enfin, à Saint-Denis ou à Rennes, il n'y avait quand même pas de risque. Et si Saint-Denis et Rennes se retrouvaient à l'extrême droite, c'est vraiment que tout le pays serait foutu. Mais voilà, qu'est-ce que tu penses de ça?
Ben non, mais pour réagir sur deux terrains, parce qu'à mon avis, la discussion touche à différentes choses. La première chose, c'est sur la question des calculs électoraux qui sont faits et la manière dont, en fait, les élections municipales ont démontré d'une certaine manière que la politique, c'est pas de l'arithmétique. Je vais prendre l'exemple de la ville de Toulouse, parce qu'en particulier, c'est là où il y a eu justement une alliance entre la France Insoumise et le Parti Socialiste qui était arithmétiquement donnée gagnante face à Jean-Luc Moudenc. Moi, j'ai vécu plusieurs années à Toulouse. Jean-Luc Moudenc n'est pas à l'extrême droite, mais c'est pas non plus un mec sympa. En fait, arithmétiquement, la gauche gagnait. Mais en réalité, la gauche a perdu. C'est Jean-Luc Moudenc qui a gagné. Et il y a eu un énorme désarroi des électeurs de gauche qui se disaient « mais c'est pas possible » et qui du coup cherchaient des raisons en se disant « mais en fait, c'est Moudenc qui est trop fort, la droite est imbattable, etc. parce qu'en fait, ils ont la héros et compagnie. » Et en fait, effectivement, il y a eu une énorme campagne dans une ville qui est comme Toulouse, qui est dominée par le secteur de l'aéronautique. Il y a une énorme campagne médiatique de la part de la Dépêche qui disait si la France Insoumise passe, les usines d'Airbus se cassent et machin, et pour l'économie c'est terrible et nanana. Et en fait, on a vu que de ce point de vue-là, il y a une surmobilisation électorale du fait d'arguments de ce type-là. Mais du coup, la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment des forces, par exemple, comme la France Insoumise ou des forces de gauche, au-delà même de la France Insoumise, mais je veux dire, comment on se pose la question de discuter concrètement avec l'électorat de l'aéronautique qui aujourd'hui votent à droite parce qu'ils ont peur que Airbus se casse et qu'ils ont peur de perdre leur boulot, mais qu'il n'y a eu aucun travail politique qui a été fait sur ce terrain-là, et que surtout tu ne convaincs pas des ouvriers dans l'aéronautique qui travaillent dans des conditions merdiques, qui ont subi les conséquences de la loi travail, d'aller voter pour le Parti Socialiste. Et en fait, je pense que ça touche un peu le nœud du problème. Et c'est la deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'on ne peut pas considérer qu'on peut combattre l'extrême droite, et moi ça je suis archi ferme sur ça, avec ceux qui lui ont pavé la voie pendant pendant des années. Je veux dire, on peut. Moi, je n'ai pas. J'ai 26 ans, enfin. Je suis née en 99, je n'ai pas l'expérience de Vincent, mais par contre, j'ai quand même ouvert quelques bouquins d'histoire qui montrent qu'au moment du mandat de Mitterrand et au moment du tournant de la rigueur, toutes les trahisons qui ont été passées par la gauche, en réalité, ont permis au Rassemblement National d'augmenter fondamentalement dans les sondages, etc. etc. On peut prendre l'exemple de la gauche plurielle, où l'énorme hommage qu'il y a eu à Jospin, enfin moi, m'hallucine, Jospin, c'est quand même le mec qui a dit que l'État ne peut pas tout faire, qui a privatisé à gogo un certain nombre d'entreprises publiques et qui, en réalité, s'est retrouvé en 2002 avec un second tour Jean-Marie Le Pen et Jacques Chirac. Enfin, je veux dire, c'est le résultat de la trahison de la gauche plurielle. Et après, on peut prendre l'exemple du Parti Socialiste en 2016, mais même de ce qui s'est passé avec le budget récemment. Enfin, je veux dire, moi, c'est pour ça que moi, je partage pas du tout l'argument qui est de dire qu'on battra l'extrême droite avec des gens comme le Parti Socialiste et c'est en faisant une unité sans principe avec la gauche de Hollande à Philippe Poutou, qu'on pourra combattre quoi que ce soit. Parce que la réalité, c'est que ce qu'a permis le Nouveau Front Populaire, ça a été de passer le budget avec le Parti Socialiste, avec l'aval du Parti Socialiste, parce que ça a permis au PS d'avoir 60 députés et qui aujourd'hui se retrouvent dans la situation de soi-disant acteurs à gauche, alors qu'ils auraient pu mourir en 2022 quand ils faisaient 1,5% et qu'on les a sauvés avec des alliances qui aujourd'hui les permettent de trahir une fois de plus les électeurs, enfin je sais pas comment vous voulez le dire, mais en tout cas trahir les fondements et les fondamentaux de ce que est la gauche en France, quoi.
Alors Vincent, pour le NPA, tu veux défendre l'unité sans principe?
Oui, bien sûr, absolument. c'est un débat qui est très long, qui est très compliqué et qui date pas d'hier.
Mais très intéressant, je pense, parce que on l'avait souligné quand tu étais venu la première fois RL, mais pour en discuter dans notre entourage de gauchistes, beaucoup de gens, parmi ceux qui sont peu politisés, ne comprennent rien. Et donc je pense que c'est important vraiment de clarifier ces choix stratégiques qui sont questionnants, en fait.
Oui, tout à fait. Mais c'est des choix stratégiques. Alors, encore une fois, je dis que ça date pas d'hier parce que et c'est des choix qui ont occupé, je dirais, le mouvement trotskiste, mais pas seulement, de façon générale, le mouvement communiste révolutionnaire depuis quand même encore plus longtemps. Et autre chose qui date depuis encore plus longtemps, c'est les trahisons du Parti Socialiste. Les trahisons, si on veut défocaliser un peu par rapport à la France, les trahisons du Parti Socialiste, elles ont commencé bien avant, en Allemagne, par exemple. Or, on a vu que face au fascisme en Allemagne, la politique du Parti communiste qui était de cibler le Parti socialiste comme... transposé, hein, l'équivalent du Parti socialiste à l'époque, c'est ce qu'on appelait la troisième période, en disant le coupable c'est les socialistes, c'est les social-démocrates, et donc il faut absolument les éradiquer pour lutter contre le fascisme. On a vu le résultat politique de cette façon de faire de la politique, de la même façon qu'on a vu ce que pouvaient donner les fronts populaires en France et en Espagne. Hein. Je ne suis pas un défenseur acharné des fronts populaires, parce que les fronts populaires c'est une façon de faire rentrer le loup dans la bergerie et de faire alliance avec la bourgeoisie. Bon,
donc là vous êtes d'accord.
Mais on est d'accord sur... Oui, sauf que on n'est pas d'accord sur la mise en musique, si tu veux, et en particulier sur le... C'est pas moral, la question. Le rapport au Parti Socialiste, il n'est pas moral. Ils sont pas gentils, on veut plus d'eux. Ils ont trahi, on veut plus d'eux, parce qu'ils ont passé toute leur vie politique à trahir. Mais de penser qu'ils vont mourir, comme a dit RL, c'est une funeste illusion. Et là, je ne vais pas aller en Allemagne, je vais aller en Espagne. Qui gouverne aujourd'hui l'Espagne ? C'est un monsieur qui s'appelle Sanchez, qui est du Parti Socialiste. Le Parti Socialiste, en 2011, le Parti Socialiste espagnol, tout le monde le donnait mouru. Pas mourant,
il a survécu
mouru.
Grâce à une alliance proposée par Podemos.
Il a survécu grâce à une alliance et il a repris l'hégémonie politique. Mais ça veut dire que, et en plus avec probablement, c'est encore le Parti Socialiste qui ressemble le plus à un parti de gauche dans la social-démocratie européenne aujourd'hui. Mais il n'a pas disparu comme ça. Il n'a pas disparu comme ça parce que qu'est-ce qui peut faire que un parti comme cela soit battu ? C'est pas là encore, c'est pas moral. C'est pas parce qu'on est bon. C'est pas parce qu'on est meilleur. C'est pas parce qu'on est plus intelligent, c'est parce que nous, on s'appuie normalement sur le mouvement social, sur la lutte des classes. Et C'est comme ça qu'on peut l'emporter. Et quand on perd sur ce terrain-là, on a beaucoup de mal à gagner contre le Parti Socialiste, bien sûr. C'est sûr. Mais ça n'empêche pas que aujourd'hui, tu dis, il y a des gens qui ne comprennent pas parmi les gauchistes, mais parmi les gens ordinaires qui ne sont pas des gauchistes, il n'y a pas que des gauchistes dans la vie. Voter pour le Parti Socialiste, ça n'a pas l'air si horrible que ça, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui le font.
Oui, oui.
Donc ça veut dire qu'il faut aussi expliquer que voter aujourd'hui pour le Parti Socialiste n'est pas forcément un problème. S'il y a un parti aujourd'hui, c'est la France Insoumise qui fait un contrepoids politique. Et pourquoi c'était pas un problème pour nous dans le Nouveau Front Populaire? C'est parce que la boussole politique du Nouveau Front Populaire, le centre de gravité, c'était le programme qui était défendu, une partie du programme qui était défendu par la France Insoumise. L'unité, bon, on a eu des débats, des débats très très longs sur le Front Unique. Le Front Unique, ça c'était à l'époque, oh là là, c'est les années 30, hein. Le Front Unique, c'est l'opposition au Front Populaire, c'est l'unité entre les révolutionnaires et les réformistes. Mais ceux qui ont théorisé le Front Populaire, le Front Unique, pardon, ils ont toujours dit, le Front Unique, il a du sens quand les révolutionnaires sont majoritaires. Bon, alors là, on n'en est plus là, mais moi, je dirais aujourd'hui, le Nouveau Front Populaire, il a du sens si on est plombé politiquement par au moins les anti-libéraux, au moins les réformistes sincères, au moins la France Insoumise. Voilà, c'est ça qui a donné un peu le Nouveau Front Populaire, surtout que c'est eux qui ont donné l'élan.
Une petite pause musicale. Ludo, c'est toi qui choisis.
Ah, moi, je tape dans la playlist de Vincent, pour l'instant, pendant que j'attends les sons d'RL.
Vas-y, vas-y.
Pequeña huella no vuelve más, y un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Y un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Caminos de algas.
fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado. Y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más. Tú déjame que duerma nodriza en paz. Y si llama él, no le digas que estoy. Dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama él, no le digas que estoy. Tú dile que me iré. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. Qué poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal te resquiebra el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar.
On est donc sur Canal B avec à la fois Vincent Giblin du NPA et RL Duclos de Révolution Permanente. Donc ce choix musical, c'était toi, Vincent, c'était quoi ?
Oui, c'était moi, c'est Rosalía, que vous connaissez tous, parce que maintenant elle fait des dingueries très pop et très kitsch. Et son dernier album est une merveille absolue, mais je voulais pas le signaler parce que c'est luxe et que c'est un truc, c'est une profession de foi, c'est presque, enfin c'est une profession de foi catholique qui est un petit peu dérangeante. Elle parle de Dieu dans tous les morceaux, mais j'adore quand même Rosalía. Donc j'ai choisi un truc quand même beaucoup plus acoustique et qui est très très beau. C'est une chanson argentine et Rosalía sait tout faire, je vous assure. Et on n'a pas fini de la voir.
Ok. On parlait donc avant la pause musicale, notamment des stratégies électorales et de l'engagement de vos organisations respectives dans les municipales. Et Vincent, il me semble que tu avais, avant même le NPA, à l'époque de l'LCR, participé à un certain nombre de campagnes locales et municipales il y a quelques décennies. Au sein de la LCR, qui est...
L'âme.
Non, c'était pour l'aspect historique qui me semblait intéressant à aborder. Au sein de la LCR, qui est une organisation qui a toujours, je crois, assumé de participer à des élections et en même temps dit que le pouvoir ne se conquérait pas par les élections et que c'était par la lutte collective qu'on changeait la société. Et donc, ça m'intéresserait de savoir ce que le fait de s'engager dans des campagnes municipales pouvait changer dans l'organisation. Est-ce que ça permettait de s'intéresser à des sujets différents ? Est-ce que ça permettait de rencontrer des personnes que vous rencontriez pas d'habitude ? Et en gros, est-ce que cet engagement municipal pouvait changer en vous, dans votre organisation, à la fois en positif ou aussi en négatif, peut-être les risques que vous identifiez, etc.
Ouais, c'est un bloc de questions, un bouquet de questions tout à fait intéressant. Pour revenir faire un peu d'archéologie, j'étais candidat sur la liste qui s'appelait, je ne sais plus à gauche vraiment, je crois à Saint-Brieuc en 2008, qui était une liste de la LCR. Et on en avait une à Saint-Brieuc, une à Ploufragan, et on a mené une campagne tout seul. Sur nos thèmes, voilà. Et on en a fait une deuxième à Saint-Brieuc, toujours, mais pas plus fringant cette fois-là, en 2014. Et cette fois-là, c'était dans un cadre unitaire avec le parti de gauche et les communistes unitaires et un tout petit groupe de décroissants qu'on avait connu pendant une élection régionale. J'étais pas candidat en 2014, mais j'étais candidat sur la liste de Marie Mesmer, donc là en 2026. Pour répondre à la deuxième partie de ta question, qu'est-ce que ça nous apporte, qu'est-ce que ça nous apprend? Qu'est-ce que ça nous apporte, as-tu demandé, et moi je réponds qu'est-ce que ça nous apprend, parce que en 2008, en fait, on savait pas faire du tout, en fait, on savait absolument pas quoi faire, et on savait ce qu'on voulait pas faire. On voulait pas faire une campagne de témoignage, on voulait pas être lutte ouvrière un peu plus sympa, quoi. On voulait faire vraiment un truc ligue ancrée dans les mouvements sociaux, ancrée dans une activité politique à Saint-Brieuc qui était quand même connue par les gens, assez reconnue. On avait quand même beaucoup de camarades dans le secteur culturel, particulièrement un camarade, je vais lui faire un petit peu de publicité, il va être content, il s'appelle Sam Burlot et c'est le grand chef du festival Carnaval au Rock, et c'était lui notre tête de liste, et donc on avait plein de rockers et de punk rockers sur notre liste. C'était une liste vraiment sympa, mais par contre on a dû apprendre à faire de la politique au municipal, c'est-à-dire de quoi on parle avec les gens quand on va sur les marchés et qu'on n'est pas en train d'élire le président de la République. De quoi on parle? Mais en fait c'est pas nous qui choisissons, c'est les gens qu'on rencontre qui nous disent de quoi ils veulent parler. Et en fait c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait tu t'aperçois que ça c'est très politique, et que ça étaye, et que ça justifie tous tes engagements, et que quand tu discutes par exemple des transports, parce que bon ça a été notre le fil conducteur en fait entre ces trois campagnes là, on a fait partout la campagne pour les transports gratuits. Quand tu commences à toucher ça dans les quartiers populaires, par exemple, moi j'habitais un quartier un peu à la périphérie de la ville où on s'était rendu compte que plus de la moitié des gens n'avaient pas le permis de conduire, et que encore là l'autre moitié n'avait pas de bagnole, et que donc la question des transports à ce moment-là, non seulement la gratuité, mais comment on définit le séquençage, comment on définit les lignes de bus, etc. Et tout ça, tu t'aperçois que en fait c'est des choix politiques. Et c'est des choix de classe aussi, c'est-à-dire que les quartiers qui sont isolés, les quartiers qui sont pas desservis, c'est pas n'importe lesquels. C'est aussi ceux où on vote pas d'ailleurs, et c'est aussi ceux où il y a le plus d'immigrés, le plus de chômeurs. Et voilà, même dans une petite ville comme Saint-Brieuc, c'est des dispositifs qui sont à l'œuvre. Et quand tu te retrouves, alors bon, donc 18 ans plus tard, à faire campagne à Rennes, eh ben tu vas sur le marché du Blône et t'as les mêmes. Alors sauf qu'il y a le métro. Bon, donc ça change un peu les choses, mais la question de la vie quotidienne, de l'engagement de la vie quotidienne au travers d'une campagne municipale, ça te soulève des questions politiques qui sont essentielles, en particulier quand tu touches à la gratuité, parce que la gratuité, c'est la répartition des richesses, c'est la question de l'impôt, la redistribution, elle se fait par l'impôt et non pas par le prix qu'on donne à son ticket de métro.
Et RL, puisque c'était la première campagne municipale de Révolution Permanente, je serais curieux de savoir si vous étiez préalablement documenté, par exemple, sur les précédents de l'extrême-gauche dans les municipales, si vous aviez des influences, des références, par exemple.
Ben, grave. En vrai, nous, on a beaucoup... Enfin, moi, je dis moi individuellement, mais aussi avec les camarades de Révolution Permanente, nous, on considère qu'on veut prendre le meilleur de l'histoire de la gauche révolutionnaire et du mouvement ouvrier. Et de ce point de vue-là, moi, je considère que la Ligue communiste révolutionnaire, et en particulier même les campagnes qui avaient pu être menées par le passé, elles permettaient de réfléchir à un certain nombre de questions programmatiques. Il y a une énorme élaboration programmatique de la LCR. Enfin, moi, je me suis plongée... Je sais plus si c'est le programme de 77 ou 73 pour les élections présidentielles, pour même essayer de réfléchir aux questions de l'éducation, aux questions des transports, à la manière dont les choses étaient formulées. Évidemment, il y a des choses qui changent, mais en fait, programmatiquement, je veux dire, nous, on est... D'une certaine manière, nos campagnes étaient plus proches de la méthode et du programme de la LCR que celle que Vincent a pu faire en 2026 avec le programme de la France Insoumise. Et du coup, nous, on a évidemment sauté dans le vide avec les élections municipales. C'était la première fois qu'on se présentait. Et donc, il y a plein de choses qu'on a appris. Mais moi, pour aller même plus loin que le truc que disait Vincent, effectivement, tu te rends compte que, en tout cas, il y a un nombre de préoccupations de la vie quotidienne qui sont éminemment politiques. Mais surtout que l'adhésion à un programme anticapitaliste, à un programme qui ne transige pas sur la question du patronat, sur la question de la transparence de la vie politique, mais qui va même plus loin, c'est-à-dire sur la division entre la politique des décidants et des dirigeants et des dirigés, en fait, ça, c'est un truc qui a énormément d'écho. Enfin, moi, j'ai été archi frappée par le fait qu'à chaque fois que je discutais, que nous, on voulait autre chose que des politiciens qui sont payés 5-6 000 euros par mois, qui ne sont pas révocables à chaque moment, etc., qui soit pas payé au même salaire qu'un enseignant ou qu'une infirmière. En fait, ça parlait à grave de monde. Quand tu parlais de la fin des indemnités, des aides publiques versées au patronat, quelles qu'ils soient, je veux dire que ce soit ça, c'est une divergence qu'on a par exemple avec la France Insoumise. et le ralliement du NPA qui s'est fait même en 2021. On avait eu des débats à l'occasion sur ce terrain-là, qu'il n'y a pas de, il n'y a pas d'entreprise auxquelles tu donnes des aides publiques parce qu'elles sont vertes ou un peu sympas, et que celles qui sont pas écolo ou qui licencient, elles, on leur donne pas d'aides publiques. Nous, on défend qu'il y ait des aides publiques pour personne. Et ça, on a vu qu'en fait, c'est des choses que les gens comprennent et qui touchent et qui convainquent. Et moi, je trouve que le résultat qu'on a fait aux élections municipales, moi, j'ai été frappée. Enfin, évidemment, on a fait des résultats ultra impressionnants, comme à Saint-Denis, on a 2 élus municipaux, donc c'est un truc quand même assez marquant. Mais même nous, à Rennes, je pense que les résultats qu'on a fait, que l'extrême-gauche n'avait pas fait, grosso modo, depuis 2008, il me semble, sont aussi marquants dans le sens où ils arrivent dans un moment où on n'est pas en 2008, on n'est pas au lendemain de la gauche plurielle et où le front de gauche n'existait pas, et on est dans un moment où les révolutionnaires, ils font 10% aux élections parce qu'il y a un espace vacant face aux trahisons du Parti Socialiste. Nous, on est dans un contexte où la France Insoumise existe, capte de fait une grosse partie de la radicalité, en tout cas sur le terrain électoral, et Révolution Permanente, malgré ça, arrive à faire des scores évidemment modestes, mais pour une première candidature et pour ce qu'on est, le programme qu'on a défendu et l'intransigeance avec laquelle on s'est présenté, moi je considère que ça dit quelque chose aussi sur la capacité de l'extrême-gauche à sortir de la marginalité, à sortir du zéro virgule et à avancer aussi, à incarner quelque chose d'alternatif à la gauche institutionnelle que représente la France Insoumise aujourd'hui.
C'est juste parce que tu, Vincent, tu as évoqué le quartier du Blône, donc pour ceux qui nous écouteraient de plus loin, quartier populaire à Rennes, classé zone urbaine sensible sous Emmanuel Valls d'ailleurs. J'ai assisté à sa venue et à l'installation des premières caméras qui n'arrêtent pas de grimper en hauteur. Ce qui m'a frappé, pour habiter moi-même dans ce quartier qui se trouve être aussi le quartier de la tête de liste LFI, c'est un quartier qui, alors qu'ils avaient mis Jean-Luc Mélenchon en première place à l'occasion des présidentielles, ont mis cette fois-ci au deuxième tour des municipales Charles Compagnon en première place. Et alors là, j'étais scié. Est-ce que c'est pas aussi une sorte d'échec de la stratégie, un quartier populaire, parce que c'est le discours de LFI, souvent les quartiers populaires nous sont acquis. Et là, finalement, ça n'a pas marché, alors probablement parce que beaucoup d'abstention, etc. Mais il y a quelque chose qui n'a pas pris.
Ça prend pas partout, ça prend pas à tous les coups. Je vais pas t'opposer Villejean, mais qui est par contre le meilleur score de LFI, qui est en tête. Mais effectivement, ça marche pas forcément à tous les coups. Bon, j'ai pas de réponse à ta question. Je ne sais pas pourquoi Compagnon est en tête sur ce quartier-là, parce qu'il a fait la même campagne partout. Donc, je ne sais pas. Je peux pas. J'ai pas de réponse à ça. Peut-être malheureusement la sécurité, mais je ne sais pas si c'est ça qui a été déterminant, je ne peux pas te dire.
Ben, en tout cas, moi, quand j'étais sur les marchés, je vois qu'il y a quand même un dégagisme anti-Appéré qui s'exprimait de manière ultra forte. Enfin, en tout cas, moi, j'étais frappée dans les discussions que j'avais, qu'il y a même des gens qui m'ont dit « je vais voter Révolution Permanente au premier tour, mais par contre, au deuxième tour, je ferai barrage à Nathalie Appéré, quel qu'il soit ». Et bon, moi, après, évidemment, t'argumentes et tu dis « non, mais Charles Compagnon, c'est pas non plus une solution et tout ». Mais il y a des gens qui m'ont dit ça, mais parce que la politique du logement social, et je pense que dans un quartier du Blône qui est évidemment très concerné, est une catastrophe à Rennes. Enfin, je veux dire, le degré d'insalubrité, la préoccupation sur les logements et la question du prix du loyer, c'est un truc qui est ultra important. Et nous, sur les marchés, en tout cas, enfin, vraiment, moi, j'ai été frappée, et notamment dans le quartier du Blône, mais pas que, de l'aspect de tout sauf Nathalie Appéré. Et je pense que ça, ça doit être aussi une leçon d'une certaine manière, justement sur ce que tu disais de la question de la stratégie, de comment, parce que je reviens sur ce qu'on disait un peu tout à l'heure, mais comment la discussion sur l'extrême droite, c'est pas un truc moral, mais la discussion sur le Parti Socialiste, pas une discussion morale non plus, parce que la réalité, c'est que c'est statistique, la montée de l'extrême droite face aux trahisons et aux politiques anti-ouvrières, sécuritaires, etc., qui sont menées par la gauche au pouvoir. Et donc, en fait, quand les gens commencent à voir que quand on te dit vote la gauche et ça va améliorer ta vie, et qu'en fait, ça la détériore, bah, ils cherchent une alternative et ils cherchent à dégager les gens qui sont en place. Et je pense que, de ce point de vue-là, une alliance, mais quelle qu'elle soit, que ce soit le NFP, la NUPES, les trucs avec place publique pour les municipales, etc., tout ça, en fait, conduit à réhabiliter des gens que la population, et en particulier les gens qui travaillent, les gens qui galèrent, etc., veulent à tout prix dégager. Donc de ce point de vue-là, je pense que si on réfléchit même d'un point de vue de stratégie pour lutter contre la montée de l'extrême droite, réhabiliter ceux qui l'ont amené et qui l'ont fait monter année après année, c'est une impasse, un échec, et ça ne marchera pas non seulement d'un point de vue électoral, mais aussi pour regagner d'une certaine manière les personnes qui aujourd'hui peuvent être attirées par un vote de droite ou d'extrême droite, par dégagisme, à une stratégie d'émancipation sociale collective, quoi.
Vincent ?
Oui, le dégagisme, je ne sais pas jusqu'à quel point il s'est exprimé, mais c'est vrai que il y a du vrai dans ce que tu dis sur le fait que je ne conteste absolument pas le fait que les trahisons du Parti socialiste ont fait le lit de l'extrême droite et depuis longtemps, parce que ça dure quand même depuis ça a commencé quasiment quand Mitterrand a été élu, hein, donc vous voyez, c'est pas d'hier. Et ceci dit, il n'y a pas de solution magique. On ne va pas convaincre les gens, et on ne va pas mettre en marche un mouvement social qui aujourd'hui n'est pas capable d'avoir la force de dégager tous ces gens-là. Et que l'idée de rassembler tout le monde à la gauche aujourd'hui par un cadre d'alliance du type Front Populaire, pour nous, on pense que c'est ça qu'il faut faire. On pense qu'il faut un front, un front uni antifasciste, et qu'il faudrait le construire. Alors Rennes est une ville extrêmement riche en front antifasciste unitaire. Malheureusement, ils font pas l'unité entre eux. Donc on pense qu'il faudrait. Alors là, c'est pas de stratégie électorale que je parle. C'est la construction d'un mouvement antifasciste. C'est le sens un peu. On fait une réunion là à la fin de la semaine prochaine. Dans une semaine exactement, avec Hugo Paletta justement, pour analyser, comprendre ce qu'est le fascisme aujourd'hui, comment ça se développe. Il a écrit un bouquin qui s'appelle « La possible étude du fascisme », pour dire que c'est pas juste un truc, c'est pas une hypothèse d'école, c'est aujourd'hui des choses qui se passent. Et donc, à cette occasion, on va essayer de mettre en discussion dans la gauche rennaise, et puis la gauche sociale aussi, pas seulement les partis politiques, mais les organisations syndicales, les associations, les mouvements, la possibilité de s'unir enfin pour essayer de construire quelque chose de façon durable et de façon...
Mais est-ce que c'est pas parce que la question de l'union, c'est...
Peut-être dire avant où et quand est cette réunion, si les auditeurs veulent venir.
Oui, d'accord. Donc la réunion, c'est à la MJC du Grand Cordel, c'est vendredi 10. Donc il y a une partie à 18h qui est signature avec la librairie L'Astrolabe, mais ça se passe au Grand Cordel déjà. Et après, c'est une réunion de type réunion publique à partir de 19h45, je crois. Toujours à la MJC du Grand Cordel avec donc Hugo Paletta, que vous connaissez. Et donc, tu disais...
Oui, on peut se demander en tant qu'électeur... Cette envie pour les électeurs de gauche d'une union, elle est forte, en tout cas elle est régulièrement exprimée. Après, c'est ça lié avec qui ? Et donc, pourquoi le NPA ne fait pas le choix par exemple de Lutte ouvrière? J'avais mis l'extrait qui date de 99 en début d'émission. Pourquoi il n'y a pas une alliance Lutte ouvrière, Révolution permanente, NPA pour peser? C'est-à-dire que là, le NPA fait le choix de d'une alliance vers la droite, entre guillemets.
Vers la droite, à notre droite, tu veux dire.
Oui, à notre droite.
Je suis pas sûr que les camarades de la France Insoumise apprécieraient. Enfin, encore qu'ils disent qu'ils sont pas d'extrême gauche, et ils ont raison, parce qu'ils sont réformistes, et ils le revendiquent, et ils l'expliquent, et c'est tout à fait respectable et tout à fait intéressant.
Mais pas seulement réformistes, mais aussi souverainistes.
Oui, là-dessus, c'est moins respectable, mais mais c'est pareil, c'est des discussions qu'on a, hein, mais et parfois sécuritaires. Sur l'unité. Alors, ce dont tu parles, c'est l'unité des révolutionnaires. Alors, ouais. C'est là que mon grand âge peut servir à quelque chose. C'est-à-dire que nous avons fait, à la LCR, on a fait l'unité avec Lutte ouvrière. 99, l'extrait que tu passais, c'est les élections régionales, européennes, pardon, de 99. Donc, pendant 5 ans, nous avons eu 2 élus de la Ligue et 3 élus de Lutte ouvrière au Parlement européen, sur un mandat. Et on n'a plus quasiment nulle part jamais fait d'union avec Lutte ouvrière après ça, parce que c'était vraiment très très compliqué. C'était très très compliqué. Même pour mener campagne ensemble, c'était très compliqué.
Et pourquoi ?
Et en fait, c'est un peu un paradoxe. Alors j'allais dire étrange, non, il n'est pas étrange parce qu'il se comprend très facilement quand on connaît un peu ou quand on connaît même pas mal. C'est-à-dire qu'en fait, Lutte Ouvrière et la LCR et maintenant le NPA, on a un corpus commun. Qui est un corpus historique et théorique qui est en principe commun. Et c'est à peu près tout ce qu'on a de commun. C'est-à-dire qu'en termes de pratique politique, on ne fait pas la même chose. On ne fait pas la même chose et des fois, on a l'impression qu'on ne fait pas la même chose dans la même vie. C'est-à-dire que, bon...
Mais vous avez quand même tous une petite photo de Trotsky dans votre portefeuille.
Moi, je n'ai pas de photo de Trotsky dans mon portefeuille. Et Trotsky non plus n'en avait pas. Trotsky a dénoncé lui-même...
Le trotskisme.
Le trotskisme en disant que c'était une invention des stalinistes. Il disait, ne m'appelez pas trotskiste parce que je ne le suis pas. Et Lutte Ouvrière... nous, bon, je vais prendre l'exemple local récent, enfin même contemporain aujourd'hui. À Saint-Brieuc, c'est une petite ville, je connaissais tous les gens de Lutte Ouvrière. Ça fait 11 ans que je suis à Rennes, je ne connais personne à Lutte Ouvrière. Je ne connais personne à Lutte Ouvrière parce que tout ce que je fais à Rennes, ils ne sont pas là. Et tout ce qu'ils font, sans doute qu'on n'est pas là. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la même façon de faire de la politique, on n'est pas dans les mêmes endroits. Et tout ce que nous, on essaye de faire, unitaire et révolutionnaire, sur la question des sans-papiers, sur la question du logement, sur la question de la Palestine, sur la question de l'écologie, parce qu'on a fait beaucoup de choses avec les soulèvements de la terre, c'est des choses qui, au mieux, indiffèrent aux camarades de Lutte Ouvrière, au pire, les effraient ou leur fait horreur. C'est-à-dire que, donc... Bon, on pense qu'ils ont une intervention qui peut être intéressante dans certains cadres du mouvement de la classe. Ils sont implantés dans les entreprises, ils sont implantés à PSA, ils ont été implantés très fortement à la Poste, à l'hôpital, dans les deux hôpitaux d'ailleurs de Rennes. Mais en dehors de ça, voilà, ils font leur feuille de boîte, ils interviennent sur la lutte des classes, sur le fait qu'il faudra que les travailleurs se mettent en mouvement. Et puis, aux élections, ils sont invités à voter pour le camp des travailleurs, mais nous on fait pas de la politique comme ça. Nous ce qu'on aime faire, c'est pas seulement culturel, mais nous ce qu'on aime faire, c'est mettre des choses en mouvement. Bon, j'ai parlé tout à l'heure de la lutte des sans-papiers. On a participé à des collectifs à Rennes qui ouvraient des squats. Alors bon, ça c'est pas très ligue, c'est plus NPA. Sur la Palestine, on a participé depuis le début à toutes les formes, toutes les variétés de formes d'AG, d'interorga, de collectifs pour secouer le cocotier sur la question de la Palestine. Eux, ils viennent dans les grandes manifs. Voilà, ils viennent avec leur drapeau. Quand ils sont là, et pas toujours. Et ça, c'est des choses. Il y a un moment, quand tu fais ça pendant plusieurs décennies, bah, t'as plus grand chose à te dire, quoi. Et puis, alors que aux européennes, on n'avait pas eu trop de difficultés à trouver un programme commun. Mais par contre, à faire la campagne ensemble, ça avait été plutôt compliqué.
Erel, sur ce rapprochement, j'ai lu le communiqué de Révolution Permanente Nationale. Donc le communiqué poste municipal qui dit à la fois quelle triste fin pour le NPA, mais en même temps qui ouvre sur un rassemblement unitaire. Donc finalement vous aussi vous êtes unitaire.
Alors moi j'aimerais bien réagir sur deux trucs avant de répondre, enfin un truc avant de répondre à ta question.
Les politiques hein, toujours pas répondre. Répondez à la question. On va faire comme Pascal Praud.
Non mais parce que je pense que c'est important justement de capter le contexte et notamment vis-à-vis de ce que disait Vincent sur la question de l'unité, la difficulté y compris à unifier des pratiques et tout. Parce que y compris je peux partager mais je reviendrai après, mais je pense que là où d'une certaine manière ce que tu décris de Lutte Ouvrière, c'est-à-dire l'aspect de scepticisme en réalité vis-à-vis de la capacité du mouvement de masse, du mouvement ouvrier, etc. à comprendre et la situation dans laquelle il est plongé, mais y compris la force sociale qui existe à l'intérieur du mouvement ouvrier, du mouvement social et tout, je pense que d'une certaine manière le NPA anticapitaliste et Lutte Ouvrière se retrouvent sur l'analyse l'analyse, c'est-à-dire l'analyse que, suite à la chute du mur de Berlin, suite à l'offensive néolibérale, en réalité, le mouvement ouvrier enchaîne des défaites, n'est pas capable de répondre, n'est pas capable de gagner, et donc, de ce point de vue-là, il faut résister. Lutte ouvrière dit qu'il faut tenir haut et fort le drapeau de la révolution et du trotskisme, pendant que le NPA dit bah du coup, il faut plus se tourner vers la France insoumise, les alliances, l'unité, etc. etc. Mais le problème, c'est que la convergence de ça, c'est un profond scepticisme qui ne comprend pas, à mon avis, le cycle de classe qu'on a traversé ces dernières années. C'est-à-dire que le problème n'est pas qu'il n'y a pas eu de mobilisation en France et qu'il n'y a pas eu d'explosion sociale et que les gens n'ont pas conscience qu'il faut se battre contre Macron. Enfin, je rappelle quand même qu'en en septembre 2025, il y avait c'était pas une pétition, mais les sondages qui sortaient sur la volonté de démission de Macron, qui était à plus de 50%. Enfin, c'était y a un niveau de contestation sociale dans le pays et de colère sociale dans le pays qui est indéniable. Mais par contre, la question, c'est à partir de quelle stratégie on a à l'intérieur de la lutte de classe qui peut permettre de gagner. Parce qu'effectivement, les enjeux sont lourds, importants. Macron n'a pas envie de lâcher. Et donc, effectivement, si pendant, je prends un exemple, la réforme des retraites, on y va un jour, une fois tous les 10 jours, on ne construit pas de grève reconductible et on est en mode, on ne veut surtout pas politiser le mouvement, on n'élargit pas le programme et compagnie. Évidemment, on s'enfonce dans un mur et à la fin, le bilan qu'on tire, c'est oui, mais Macron était trop fort. Moi, je pense pas que Macron était trop fort. Je pense que nous, on a cherché à se battre contre quelqu'un qui était déterminé à passer une réforme avec des petites cuillères. Et donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et c'est par rapport à l'unité. La question de l'unité des révolutionnaires, pour moi, c'est un truc important qui doit se penser dans le cadre en premier lieu électoral, et y compris c'est ce qu'on fait en pratique avec notre organisation sœur en Argentine, avec une coalition de front qui s'appelle le FITU, enfin c'est le Front Unitaire des Travailleurs, je sais plus à quoi correspond le I, mais qui a un front de 4 organisations qui se revendiquent révolutionnaires, du socialisme, etc., et qui se présentent de manière commune aux élections, qui y compris permettent non seulement d'avoir des élus dans les instances nationales, mais même d'imposer par exemple la rotation des mandats entre eux, etc. Enfin, de tester un peu jusqu'au bout ce que Lénine discutait même en termes de parlementarisme révolutionnaire et de la nécessité pour les révolutionnaires de s'insérer dans les institutions pour en faire des outils pour la construction de la lutte de classe et de la conscience de classe dans le mouvement ouvrier. Ça, c'est le premier truc. Nous, on regrette, et la proposition, effectivement, on ne l'a pas formulée au NPAA parce qu'on sait que depuis le Nouveau Front Populaire, la NUPES, etc., on sait que leur yeux regardent vers les réformistes et y compris vers le Parti Socialiste, et donc nous la proposition qu'on a formulée, mais y compris
là c'est méchant là.
Non mais c'est vrai, enfin je veux dire c'est vrai qu'on, enfin on vous aurait proposé, vous auriez dit non, enfin parce que vous seriez allé vers la France Insoumise quand même, et même avec Place Publique, enfin je veux dire dans tous les cas les coordonnées du débat c'est pas celle-là, mais par contre nous on a proposé à Lutte Ouvrière et au NPA Révolutionnaire de faire des alliances parce qu'on considère, et moi je comprends y compris les électeurs qui veulent voter à gauche de la France Insoumise qui se disent bah les gars c'est un peu absurde, genre c'est les élections, vous êtes tous dans le même rapport aux élections, présentez-vous ensemble. Et moi, je considère qu'aujourd'hui, c'est débile qu'on soit 4 listes d'extrême gauche à Rennes et qu'on aurait pu construire une unité. Et moi, j'en appelle aux auditeurs de Canal B, s'il y en a qui font partie de ces organisations, qu'on repose aussi ces discussions-là pour les prochaines élections. Moi, je pense que c'est un truc important parce que, en réalité, c'est ce qui permet de coaguler toutes les voix des révolutionnaires. Et je trouve que c'est en tout cas ce qu'il y aurait besoin dans la période plutôt qu'une division, en tout cas sur le champ électoral.
Bon. Vincent, les auditeurs ne l'ont pas vu, mais il y a eu quelques moues réprobatrices.
Mais... C'est pour ça que c'est bien de ne pas être à la télé, en fait.
Mais je propose une petite pause musicale avant peut-être d'aborder aussi la question justement plus internationale, puisque tu as entamé le sujet, RL.
Oui. Ouais, on écoute un morceau de ton choix, RL.
Tu veux que je le présente ?
Bah, si tu veux.
C'est un morceau qui est beaucoup chanté dans les stades de foot pour les personnes qui ont suivi la mobilisation de solidarité avec la Palestine ces deux dernières années. Il y a eu des images, notamment dans un stade, il me semble, en Égypte, où les supporters le scandaient, et c'est une chanson de solidarité avec la Palestine, et que je trouve que c'était important de passer maintenant parce qu'il y a les prochaines flottilles qui partent pour Gaza, qui vont partir le 12 avril, et je pense que c'est important de construire dès maintenant la solidarité avec cette mission qui est très importante.
Mmh.
C'est ah mince, Vivien et moi on se regarde, on dit c'est toi, non c'est moi.
Ouais.
On est toujours sur Canal B, toujours dans Frisson.
Toujours avec RL de Révolution Permanente et Vincent du NPA.
Voilà, pour un débat qui... Enfin, RL, t'as un petit peu montré les dents. Et Vincent est resté sage dans son siège. Et il avait... Bon.
On va pas se taper dessus non plus. On n'est pas là.
Ça risque pas non plus.
Et ouais, RL, donc t'es étudiante à Rennes 2. Et jeudi, un village antifasciste à Rennes 2. Tu peux peut-être nous en parler un peu et appeler les gens qui veulent venir à venir.
Grave. Ben, du coup, avec les organisations étudiantes et de personnel de la fac de Rennes 2, on a construit une journée qui vise à être une journée de mobilisation antifasciste et contre l'extrême droite, mais aussi contre la militarisation et l'impérialisme sur la fac de Rennes 2. Ça va être en gros pas mal de conférences animées tout au long de la journée avec un village associatif le midi. Il y aura notamment une conférence de Vivian Petit sur la question de la Palestine.
Pas lui.
Je ne vous dis pas l'heure parce que je ne la connais pas. Voilà. En gros, il y aura ça avec une table ronde à la fin de la journée avec toutes les associations de la ville qui luttent justement sur la question de la solidarité avec les sans-papiers, sur la question des quartiers populaires, sur la question étudiante, travailleuse, etc. Et donc, on va débattre de justement de quelle stratégie on a besoin pour lutter contre l'extrême droite. Et ça va être hyper cool. Donc, n'hésitez pas à venir.
On peut peut-être terminer l'émission justement sur les questions internationales et les guerres de plus en plus fréquentes et le risque d'une généralisation de la guerre, notamment une réorganisation des économies européennes autour de la question de l'armement. Donc j'aimerais bien vous entendre un peu l'un et l'autre là-dessus. Bah, Vincent, peut-être pour commencer, savoir ce que tu peux dire de la position du NPA vis-à-vis du réarmement, de la réorganisation des économies européennes autour de la question de l'armement et des manières dont des mobilisations populaires peuvent ou non empêcher une guerre mondiale. Et je te pose la question parce qu'il me semble que le NPA cherche à être dans une position qui à la fois soutient la solidarité avec l'Ukraine, notamment les livraisons d'armes envers l'Ukraine, tout en critiquant quand même les entreprises d'armement et les choix de nos dirigeants qui réorganisent l'économie autour de l'armement. Donc comment vous situez sur cette ligne de crête et quelle est votre stratégie pour éviter une guerre mondiale?
Et voilà, t'as tout dit. L'ambition d'éviter une guerre mondiale, t'y vas fort, mais... Disons que oui, de façon générale, on s'oppose au réarmement et en particulier avec tout ce qui est en train de se mettre en place aujourd'hui autour de l'offensive sur l'Iran et versus le Liban, le Gaza, la Cisjordanie, la multiguerre des impérialistes américains et israéliens. Mais avec un positionnement des États d'Europe de façon générale, pas tous, mais quand même la grande majorité d'entre eux, qui est à la fois un soutien finalement avec pas tellement de réticence par rapport à l'impérialisme américain. Hein, c'est plutôt, il y a quelques petits codicilles de moralité quand même en disant c'est quand même pas trop cool ce qu'ils ont fait, mais enfin bon, il faut bien qu'on les soutienne quand même, même s'ils refusent quand même d'intervenir sur, par exemple, Hormuz. Mais disons, pas beaucoup de marge de manœuvre des impérialistes européens, parce qu'il faut bien les appeler comme ça, par rapport à l'impérialisme américain. Ils se démarquent pas, ils ont même pas aujourd'hui en France, par exemple, il pourrait y avoir des accents un peu vilpinesque, mais en fait lui-même est marginalisé et renvoyé vers la gauche. Enfin, tout le monde le considère comme un insoumis de droite maintenant. Et donc de façon assez classique, nous on est contre le réarmement, on est contre l'orientation budgétaire qui s'impose à tous les peuples en Europe de réarmer, de mettre plus de une part de budget plus importante pour le réarmement. On est également contre les tentatives. Alors déjà, ça vient doucement, mais ça commence à venir de façon un peu plus pesante sur l'embrigadement de la jeunesse, par exemple. Bon, c'est les déclarations comme quoi il faut qu'on s'apprête à perdre nos enfants, des choses comme ça. Bon, qui sont des choses et il faut pas sous-estimer ces choses-là parce qu'aujourd'hui on voit le
c'est les fenêtres d'Overton, quoi.
Ouais, et on voit l'effet des entreprises idéologiques sur le long terme comme ça qui finissent par modeler la population, et on a une forme d'hégémonie aussi à ce niveau-là qui commence à être sérieusement préoccupante. On commence à convaincre les gens de ça, en fait, que la guerre ça va arriver, puis que c'est pas de chance. Donc de façon générale, on est plutôt, alors ça c'est la position par rapport au réarmement, la position par rapport à la construction d'un mouvement anti-guerre. Évidemment, nous on est pour la construction d'un mouvement anti-guerre, sauf que on a visiblement beaucoup plus de difficultés que lors des entreprises précédentes de l'impérialisme américain en Irak en particulier, où il y avait des mouvements extrêmement puissants en Europe, et c'est pas le cas aujourd'hui. Il y a des débuts, il y a des choses qui se passent, mais ça n'a pas le même niveau. Bon, il y a quelque chose qui se passe aux États-Unis, qui commence à être un petit peu conséquent. Alors à l'intérieur de tout ça, qui sont finalement des positions assez classiques de notre courant politique, il y a la question de l'Ukraine que tu soulèves, parce que par rapport à ça, le versus pour nous de cette question-là, l'autodétermination des peuples et de tous les peuples. C'est pas que les Palestiniens qui ont le droit de se défendre, et c'est aussi, on considère que le peuple ukrainien a le droit de se défendre par rapport à l'impérialisme russe cette fois-ci. Bon, alors c'est extrêmement compliqué de dire nous on soutient la résistance armée et non la formule aujourd'hui c'est celle-là, on soutient la résistance armée et non armée du peuple ukrainien contre l'agression russe. Alors le problème c'est que les armes il faut les trouver quelque part, et c'est vrai que là on est dans une difficulté, c'est-à-dire qu'on peut pas dire les Ukrainiens ils ont le droit de se défendre, ils ont le droit d'avoir des armes, mais par contre il faut pas leur en donner, quoi. Donc effectivement on ne s'oppose pas de façon frontale de la même façon sur cette affaire-là par rapport au fait que les Ukrainiens soient armés. De la même façon, je termine là-dessus. Pardon. De la même façon que on a soutenu autour du Rojava, par exemple, on a soutenu des interventions. Enfin, on les a pas soutenues, mais on les a pas dénoncées non plus. Certaines interventions impérialistes sur certains des ennemis du Rojava. Ça nous gênait un peu aux entournures, mais en fait, les gens du Rojava, ils pouvaient pas faire autrement. Enfin voilà. De la même façon que, alors là, c'est un peu plus ancien, mais dans les Balkans, on s'est retrouvé dans des situations un petit peu identiques, même si ça y avait pas les mêmes clivages politiques autour de ça, on était quand même dans une difficulté extrême, c'est-à-dire comment faire pour que... Puis en plus, nous, on a le pouvoir de rien, en fait, hein, on a le pouvoir de la parole, de la construction de nouveaux anti-guerres, et par rapport à ça, on essaye de tenir tous ces bouts-là. Et d'ailleurs, on a en projet de faire une soirée à l'Arvor autour d'un documentaire qu'ont fait certains de nos camarades sur l'Ukraine. On vous tiendra au courant et quand ce sera fait, ça va être un débat certainement très très intéressant, très compliqué mais très intéressant.
Parce qu'il me semble que le problème, c'est autant la dépendance vis-à-vis des grandes entreprises capitalistes de l'armement qui évidemment mettent une pression énorme aux États pour que l'économie soit réorganisée autour de l'armement, qu'on trouvait le prétexte de la guerre en Ukraine ensuite. Enfin, on l'a vu en Allemagne, par exemple, des entreprises dans l'automobile qui n'étaient plus du tout rentables, qui sont de nouveau rentables parce qu'elles sont réorientées sur l'armement. Et là où c'est quelque chose de très dangereux à moyen terme, c'est que si demain il y avait un cessez-le-feu en Ukraine, ces entreprises-là et ces États-là feraient évidemment en sorte qu'il y ait encore cette croissance pour l'armement et chercheraient à trouver d'autres guerres. Donc il y a ce problème-là, mais il y a peut-être aussi même du point de vue du peuple ukrainien, par exemple, ou du peuple kurde, le fait qu'ils sont envisagés comme des périphéries par des États qui disent les aider, mais qui veulent en faire des sortes de succursales. Par exemple, l'Union européenne, quand ses membres livrent des armes envers l'Ukraine, c'est pas par bonté d'âme ou c'est pas par principe, c'est évidemment pour que l'Ukraine soit une périphérie de l'Europe et un endroit à exploiter. Pareil, s'il y a eu une utilisation d'une partie des Kurdes, de certaines milices contre Daesh, ça a été pour avoir à ce moment-là un allié dans cette partie du monde et pour défendre ses intérêts, quoi. Donc, quelle est la place du NPA ou qu'est-ce que vous défendez dans les mouvements de solidarité avec l'Ukraine pour défendre ça en même temps, quoi?
Avec nos petits bras, on essaie de construire des solidarités ouvrières, comme on dit, c'est-à-dire qu'on a, on participe à un réseau qui s'appelle le RESU. Alors, je sais plus, le U, ça doit être Ukraine, le réseau, ça doit être solidarité, sans doute. Réseau européen de solidarité avec l'Ukraine, je crois. Et qui vise vraiment à ça, c'est-à-dire à construire, alors là, pour le coup, avec des syndicalistes, avec des gens qui essayent de construire une gauche en Ukraine aujourd'hui, essayer de construire quelque chose qui soit à la fois opposé à l'agression russe et à la fois opposé à Zelensky, c'est-à-dire parce que Zelensky c'est un libéral, c'est un mec voilà, c'est un gouvernement libéral autoritaire en période de guerre. C'est pas le plus facile pour les camarades qui sont en Ukraine aujourd'hui de se mouvoir dans tout ça, mais ça c'est quelque chose. Il y a des si j'étais maoïste, je dirais il y a des contradictions principales et secondaires, et on peut pas étant conscient de ce que tu dis, on peut pas dire ah bah ouais, pas de chance, merde, tant pis pour leur gueule, quoi. C'est pas possible. De la même façon, bon, alors vous allez trouver que j'ai un tropisme espagnol un peu marqué, mais au début de la guerre d'Espagne, et même avant le début de la guerre d'Espagne, les Espagnols, les républicains, et pas seulement les républicains, se sont tournés vers les puissances occidentales, notamment la France, pour avoir des armes. Et on fait quoi à ce moment-là, dans une période de réarmement, on fait quoi? Et c'est des débats qui sont difficiles à considérer, mais aujourd'hui, vu de notre, avec le recul qu'on a, on reproche à ceux qui n'ont pas livré d'armes à l'Espagne de ne pas l'avoir fait. On leur reproche, et à juste titre, et pour plein de raisons.
Ouais, Erel, dans une période...
Pas d'armes sur Vinted.
Je crois pas.
Non, sur le bon coin, fallait sur le bon coin.
Sur Telegram, peut-être.
Une rubrique.
Bon bah, RL, comme disait Vincent, dans une période de réarmement, on fait quoi?
Ben, on s'y oppose fermement. Enfin, pour moi, le préalable, mais pour rebondir un peu sur ce qu'on disait au début, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la politique de militarisation de la France, mais y compris de l'ensemble des États impérialistes européens, elle amène à beaucoup, beaucoup de dangers. Enfin, je veux dire, l'Allemagne, c'était ce qu'on pouvait qualifier d'une puissance impérialiste sans dents, parce que c'est une armée qui a été totalement démembrée après la Deuxième Guerre mondiale. Là, ils ont investi des centaines de milliards pour accélérer de manière ultra drastique le réarmement de l'Allemagne. Et en fait, nous, ce qu'on observe en France, en réalité, c'est même plus brutal en Allemagne avec la question du service militaire. Je crois que c'est obligatoire, si ce n'est volontaire. Je crois que c'est obligatoire. Et c'est ce qu'on est en train de voir un peu partout. Et de ce point de vue-là, à mon avis, il y a un enjeu fondamental. Et Vincent, tu le disais un peu sur la question de... aujourd'hui, il n'y a pas de mouvement anti-guerre très fort en France, mais... je pense que justement la tâche des révolutionnaires, c'est de chercher à œuvrer à le construire à partir des préoccupations, y compris concrètes, qui peuvent émerger. Parce qu'on le voit par exemple là avec la question du prix de l'essence qui préoccupe 90% de la population, de comment ça peut être un levier pour discuter de l'opposition à la guerre de manière très très large dans la population, notamment vis-à-vis de l'offensive impérialiste actuelle qui a lieu en Iran. Et nous, de ce point de vue-là, avec Révolution Permanente, on investit l'ensemble des coalitions existantes. Il y en a une notamment qui a été lancée l'année dernière qui s'appelle Guerre à la guerre et qui essaye d'articuler justement la lutte contre la militarisation de la France avec une lutte anti-impérialiste plus large qui regroupe plein d'organisations différentes mais qui cherchent à avoir justement l'initiative sur et sur la construction, en tout cas la tentative de construire un antimilitarisme populaire. Il y a notamment, et je le dis en passant, mais une manifestation qui est appelée par la coalition du Grand Ouest le 8 mai à Saint-Nazaire pour dénoncer la construction du deuxième porte-avions militaire de la France qui va se tenir dans le Pays de la Loire. Et je rebondis aussi sur la question de l'Ukraine, mais parce que pour moi justement il faut aller jusqu'au bout de ses positions, dans le sens où aujourd'hui la guerre entre la Russie et l'Ukraine, l'OTAN, nous ce qu'on a défendu dès le départ avec Révolution Permanente, c'était de dire ni Poutine ni OTAN, dans le sens où aujourd'hui l'Ukraine est utilisée comme un état pivot pour les puissances impérialistes européennes pour se repositionner à échelle internationale dans la bataille contre la Russie. Et je pense que le truc qui est très clair sur pourquoi l'envoi d'armes à l'Ukraine n'est pas de bonté percée de cœur ou ultra sympa, mais c'est même Sébastien Lecornu, avant qu'il soit Premier ministre, qui faisait des déclarations à la télé, qui disait à un moment donné, il va falloir qu'on se pose avec l'Ukraine, qu'on discute de combien on leur a donné, quel marché on va pouvoir prendre, et les minerais rares, comment on va se les partager, parce que les États-Unis sont en train de se désengager, mais nous, on veut notre part du gâteau. Et en réalité, c'est ça qui est en train de se poser, c'est que derrière même la réindustrialisation d'un point de vue militaire de la France et des puissances impérialistes européennes, c'est aussi comment les puissances impérialistes, elles vont se battre pour savoir qui va reconstruire l'Ukraine, quelles entreprises vont pouvoir aller capter les ressources et les machins, et qui c'est qui va pouvoir faire son bif sur la question de la misère du peuple ukrainien. Et je pense que de ce point de vue-là, soutenir une guerre qui est à ce point-là, soutenir un camp qui est à ce point-là totalement englué dans les intérêts de l'OTAN, qui sont des puissances, enfin je veux dire que l'OTAN c'est les puissances impérialistes américaines, françaises, qui n'ont rien à envier à la Russie de Poutine. Et donc de ce point de vue-là, nous on considère qu'il faut avoir une position claire, qui n'est pas évidente à comprendre, mais qui ne se place dans aucun de ces deux camps-là, du fait même que une défaite aujourd'hui de la Russie et une victoire des puissances impérialistes sur l'Ukraine ne dit pas beaucoup de bien pour les masses populaires ukrainiennes pour la suite.
Juste avant de laisser Vincent répondre, donc je précise que j'ai fact-checké sur l'Allemagne. Pour l'instant, le service militaire qui vient d'être établi en Allemagne est volontaire, mais l'Allemagne est en train de procéder à un recensement de l'ensemble de la population jeune au cas où il le rendrait obligatoire dans les prochaines années. Donc il y a un probable projet à moyen terme de rendre le service militaire obligatoire en Allemagne. Vincent ?
La pureté cristalline de nos positions politiques des fois se heurte à la comment ça s'appelle cette chose, la réalité en fait.
Realpolitik, tu vas nous faire le coup de la realpolitik.
Oui, absolument, pour deux raisons. La première, c'est que moi je veux bien avoir une position ferme, claire. Alors par ailleurs, le NPA, l'anticapitaliste, fait partie de la coalition de guerre à la guerre aussi. Donc juste un petit mot comme ça en passant. Mais une position comme celle-là, qui est de dire on ne va pas soutenir un camp dans cette affaire, si on est des révolutionnaires conséquents, ça veut dire qu'on souhaite la défaite de son propre impérialisme. Je pense que c'est un peu compliqué d'aller expliquer aux Ukrainiens aujourd'hui qu'il faut souhaiter la défaite de leur bataille contre la Russie. Ça ne va pas être facile à faire passer. Mm-hmm. Et c'est là qu'elle est notre contradiction. C'est-à-dire que est-ce que la guerre des Ukrainiens, est-ce qu'il y a des guerres justes? Je ne sais pas, mais quand tu te fais agresser par un impérialisme comme celui de la Russie, je pense que tu as envie de te défendre. C'est normal et c'est compliqué. Et la deuxième chose que je voulais dire par rapport à ça, pour ne pas faire des développements trop longs, c'est que, oui, parce que je vois qu'il est bientôt l'heure, j'ai été interpellé de façon qui m'a un peu scotché sur le marché de Saint-Thérèse quand je distribuais des tracts pour la préparation de la manifestation de Palestine de samedi dernier. Il y a une camarade qui m'a dit il faut arriver à faire comprendre aux gens qu'aujourd'hui la question palestinienne se résout dans une définition plus régionale de l'impérialisme et tout ça. Et donc en tirant un petit peu sur le fil, j'ai dit à la camarade, mais tu veux qu'on parle moins de la Palestine? Non, c'est pas ça, mais n'empêche que si on tire ce fil-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Gaza, ça devient moins important, le nettoyage ethnique en Palestine, ça devient presque lié à une solution régionale qui serait une solution politique à la guerre de l'Iran. Et moi, c'est des trucs, alors je suis peut-être un peu spontanéiste, mais moi je peux pas entendre des choses comme ça. C'est-à-dire que les Palestiniens, ils ont le droit de se défendre, les Ukrainiens, ils ont le droit de se défendre, et nos problèmes de contradiction politique, c'est pas grave, on va faire avec.
Ouais, parce que l'énorme différence, c'est qu'il y a des impôts et une quand même réorganisation de l'économie en Europe sous prétexte de soutenir les efforts de guerre pour l'Ukraine. Alors que si on dit en France qu'il faut livrer des armes au groupe armé palestinien, on risque la garde à vue, quoi. Donc la mise en parallèle, elle peut tenir sur les principes, elle peut difficilement tenir en pratique en France en 2026.
D'ailleurs, soutien total à Rima Hassan, qui a été pas mal embêtée ces jours-ci et qui va continuer à l'être. Et je pense que c'est pas juste un détail et que c'est pas juste un épiphénomène. C'est-à-dire que c'est elle. Ça peut être nous, ça pourra être nous. Tout à l'heure, en arrivant ici, je parlais du Coco Crimes, je ne sais pas si vous vous rappelez. C'est un truc qu'on avait monté en 2016 avec des autonomes de la Maison de la Grève, le NPA et la CNT et quelques autres. pour dire les gens qui sont réprimés en 2016 après les manifs qui ont été parfois un peu violentes à Rennes, où il y avait pas mal de garde à vue, d'arrestations, etc.
Ouais, assez violente, ouais.
Assez violente, ouais. Il y avait un deuxième tour qui était assez chaud. Eh bien, à ce moment-là, ce qu'on expliquait dans ce collectif, c'est que ceux qui étaient visés à cette époque-là, c'était des militants et des militantes du mouvement autonome. Et on expliquait, bah ouais, mais demain, c'est nous, en fait. Et puis après-demain, c'est vous. Et en fait, bah, 10 ans après, on voit que c'est nous. Enfin, on est tout près. C'est-à-dire, les manifestations palestines, au début, elles étaient interdites. On était verbalisés. On continue à être verbalisés autour des sans-papiers, en ce moment, beaucoup plus.
On va malheureusement devoir se quitter. Il est l'heure. Il faut qu'on rende l'antenne pour l'émission qui suit. Donc, un dernier mot, mais très très court.
Un dernier mot. Il y a donc le 8, c'est mercredi, je crois, à 17h30, un rassemblement autour du logement des sans-papiers qui se placera à Place de la République. Et venez nombreux.
À quelle heure?
17h30, République.
Enfin, merci République, Vincent et Rel.
Merci.
Au revoir.
À bientôt.
À bientôt. Ciao. Never had a dripping words when the truth was. If my mind's working, then I get hurt lately. This is dangerous, make a crowd, don't be crazy.